matin, je me réjouis vraiment parce que j'ai senti aussi de la part de Dieu, comment dire, la paix de Jésus. Et j'en avais besoin. J'ai vraiment vécu une période difficile et je me suis dit, Seigneur, j'ai vraiment besoin de ta paix parce qu'on ne peut pas, si on n'a pas la paix, faire quoi que ce soit. On se rend compte pour lui et sinon, ben, on est carrément arrêté. Et donc, ce matin, je me place aussi au milieu de vous par rapport à ce que le Seigneur m'a dit de vous dire. Je ne me place pas comme étant au-dessus de quoi que ce soit. Je me dis, comme vous, je suis dans ce peuple de Dieu. Et le sujet que je voulais aborder ce matin, c'est le titre, ça serait « Vous voulez connaître la direction de Dieu, alors enlevez toute saleté dans votre vie ». Waouh. Mais j'aurais une deuxième peut-être préposition. Voulez-vous et pouvez-vous recevoir des instructions? C'est la même chose. Et je me baserai bien sûr sur le texte de Josué 5, quand Josué s'est retrouvé face au chef de l'armée de l'Éternel, donc face à Jésus. Voilà. Il semblerait, moi je trouve en tout cas, que les gens ont beaucoup de difficultés à demander des informations pour savoir ce qu'ils doivent faire. Avouez qu'on est tous dans ce cas-là. Des fois, on se dit on a suffisamment de ressources en soi pour faire même des choses toutes simples. Pour ma part, je me souviens, et je l'ai noté dans ce que je voulais vous dire, parce qu'il y a deux jours j'en parlais chez les Beck, c'est que on discutait sur l'Australie comme... Noémie était en Australie et donc j'ai raconté un petit peu, on lui a raconté deux, trois périples. Et je me suis souvenu d'une chose, je me suis souvenu de m'être perdu dans une très grande ville, la ville de Melbourne, qui a plus de 3 millions d'habitants. Pourquoi ? Parce que je n'avais pas posé les bonnes questions. C'était un jour, on atterrit, on venait de l'intérieur du pays, on atterrit sur Melbourne et puis on avait vraiment la pêche, on se disait... À nous, Melbourne. Ah oui, vraiment. Hein. Parce que ben, je dirais que tout s'était bien passé. Il n'y avait eu aucun anicroche alors qu'on avait fait plein de vols. Et là, on ne savait pas dans quoi on s'était mis. On atterrit. Dans l'aéroport, on attend je ne sais pas combien de temps à un guichet avec quelqu'un qui ne savait rien faire pour la location de la voiture. Et donc, du coup, il y a quelqu'un qui me dit... Mais vous savez, il y a un autre guichet là qui est dans l'autre bâtiment et ils sont beaucoup plus efficaces. Donc j'ai changé de bâtiment au bout d'une heure. Je suis allé là-bas. Puis là-bas, ça a été très rapide. On m'a donné une jolie voiture. Bon, je ne savais absolument pas comment ouvrir le coffre, comment enlever le frein à main. Mais bon, donc je me suis levé, je suis allé voir quelqu'un et j'ai dit, écoutez, comment est-ce qu'on fait ça? Ben, c'était une voiture que je ne connaissais pas. Je m'attendais évidemment à rouler à gauche. Et bien sûr, à avoir la conduite à droite. Mais ça, je suis un peu habitué maintenant, donc ce n'est pas une chose qui me déplaît. Par contre, il y a autre chose auquel je ne m'attendais pas. Moi, je me suis dit, j'avais loué un GPS, j'ai mis le GPS dedans. Je l'ai mis sur l'adresse où je devais aller, puisqu'on devait rejoindre notre fille qui était à 10 km de là. 10 km, hein. On a mis 4 heures. En fait... Le GPS était complètement pourri. Je ne sais pas ce qu'il a fait. Mais là où moi je me suis entêté, c'est que c'est souvent ce qu'on fait, c'est-à-dire qu'on pense qu'on a le mode d'emploi, on pense qu'on sait où c'est, on pense que, bref, mais je pense à ce que nous sommes en train de faire là. Nous sommes en train de faire des travaux. Et on a quand même eu aussi pas mal d'histoires à vous raconter par rapport à ce qui s'est passé au fur et à mesure. Et je vous rappelle quand même qu'on a eu notre permis en 2010, qu'on a commencé en 2011 et qu'on est en 2017. Et il me semble, d'après ce que me disait Christophe Hufschmidt, c'est qu'on doit être les seuls sur le Haut-Rhin qui avons un permis en cours qui est aussi vieux, quoi. Alors je ne sais pas si c'est vrai. On ne veut pas faire des records, hein, ne vous inquiétez pas. Je reviens à Melbourne et donc je sors de l'aéroport. Juste à l'heure de pointe. Alors, quand il faut rouler à gauche dans une grande ville que vous ne connaissez pas du tout, avec des tramways en plus, et je suis fièrement mon GPS. Et puis, une demi-heure après, On se retrouve carrément au nord, quelque part, dans un no man's land. On se dit, c'est bizarre. Elle nous a dit que c'était plus près du centre et près de la rivière, et là, on se retrouve là. Bon. Et puis ma femme me disait, mais il faut que tu remettes à zéro le GPS, il y a quelque chose avec le GPS. Mais non. Je n'ai pas voulu l'écouter. Et comme ça, on est allé de banlieue en banlieue, parce qu'en fait, le GPS était en mode démo. Mais voyez l'obstination. Voilà. Et donc, je me suis... on a mis... Alors, finalement, au bout de pratiquement 3 heures, j'ai quand même téléphoné à ma fille. Je lui ai dit, écoute, est-ce que tu... Je peux te donner un nom de rue et est-ce que tu peux regarder sur Google Maps où on est? Alors, vous voyez un peu le guidage. Hein. Le téléphone. Donc, ma femme avait le téléphone et puis ma fille avait... Son ordinateur devant elle, mais elle ne savait pas dans quel sens on circulait, ni où on était sur cette rue. Bon, on a quand même mis encore une heure à partir de ce moment-là pour arriver où elle était. En s'arrêtant quand même dans une station, bref, là j'ai compris, et ça reste vraiment ancré en moi, que même si moi j'ai vraiment une habitude, et souvent les hommes, on a plus le sens de la géographie ou de l'orientation. Je ne prétends pas que ça soit vrai à 100%, mais en tout cas, vous voyez, il y en a certains qui disent que ce n'est pas tout à fait vrai. Bien. Donc moi, je ne me perds jamais. Et là, je me suis vachement perdu. Mais je prends un autre exemple. Voulez-vous et pouvez-vous recevoir des instructions? Donc là, j'étais incapable de recevoir la moindre instruction. Est-ce que vous avez déjà essayé de monter un meuble acheté chez IKEA sans suivre les instructions? Vous avez déjà essayé? Oui, moi j'ai déjà essayé. Bon, j'ai tenté le coup parce que, pareil, quand on est bricoleur, on se dit que, franchement, ça ne doit pas être quand même un truc d'ingénieur, quoi. Après, il nous reste quelques pièces. On ne sait pas où on doit les mettre. Bon, c'est vrai que souvent le meuble est quand même fini et on se dit que ça doit être en trop ou que... Mais bref, je pense que si j'avais pris les instructions à la lettre, j'aurais évidemment évité de commettre ce genre d'erreur. Mais je sais aussi qu'il y en a plusieurs dans cette salle qui est en mesure de vous rappeler une période de votre vie où vous n'avez pas suivi des instructions et les choses ont mal tourné pour vous. Je n'ai pas la prétention de penser qu'il n'y a que moi qui me trompe, hein, non quand même. Non, il y en a beaucoup qui se trompent. On se trompe souvent. Donc, le fait est le suivant, si vous voulez que les choses aillent mieux, et si vous voulez être capable de faire les choses correctement, vous devez suivre les instructions, vous devez suivre les informations transmises. Si nous voulons vivre la vie abondante que Dieu a en réserve pour nous, c'est là où je veux en venir, si nous voulons profiter de cette vie, alors nous devons suivre les instructions que Dieu nous a données dans sa parole. Certains disent d'ailleurs que la parole de Dieu, c'est un peu le mode d'emploi de l'homme, enfin de l'homme au sens général, mensch. Oui, mais il y en a aussi qui ont pris la Bible comme étant un livre de, bon, une information, puis après on se dit, bon, ben, très bien, je sais le contenu, j'ai plus besoin de m'instruire au fur et à mesure, ou de chercher ce que Dieu veut me dire par rapport à demain, par rapport à la direction qu'il veut donner. Parce qu'on se dit c'est trop général. Finalement, on lit des tas de choses dans la parole et on se dit c'est ok, c'est une sorte de guide. Mais moi j'aimerais que nous examinions la parole de Dieu ce matin afin de découvrir certaines choses que nous devons faire et que peut-être ça soulèvera d'ailleurs des questions pour vous aussi, afin de découvrir donc ce que nous devons faire pour être en mesure de suivre les instructions qui viennent du Seigneur. Et pour comprendre le contexte du texte principal que je vais vous lire, donc le texte principal c'est Josué 5, 13 à 6, 5. Mais lisons d'abord Josué 5, les versets 2 à 12. Le contexte est le suivant. Les Israélites venaient de passer 40 ans dans le désert. Et ils étaient maintenant, ils avaient traversé le Jourdain, dans des circonstances qui sont assez exceptionnelles aussi. Et là où je prends ma lecture, on va dire, c'est un moment assez particulier. C'est le moment où Dieu demande à ce que les jeunes qui n'avaient pas été circoncis parce que tous leurs parents étaient décédés, tous ceux qui avaient été circoncis à la sortie de l'Égypte, tous les adultes en âge de combattre, avaient été circoncis à la sortie d'Égypte. Là, c'était leur fils. Et c'est à ce moment-là que commence la lecture. À cette époque-là, le Seigneur dit à Josué, « Fais-moi des couteaux en pierre et circoncis les Israélites de cette nouvelle génération. » Josué se fait donc des couteaux en pierre et il circoncit les Israélites. Cela se passe à l'endroit qu'on a appelé la colline de la circoncision. Quand le peuple est sorti d'Égypte, tous les hommes en âge de faire la guerre ont été circoncis. Or, cette génération est morte dans le désert. Mais les garçons nés pendant la traversée du désert n'ont pas été circoncis. C'est pourquoi Josué doit le faire. Les Israélites ont marché 40 ans dans le désert. À la fin de ces années, les hommes sortis d'Égypte qui avaient l'âge de faire la guerre sont tous morts. En effet, ils ont désobéi au Seigneur. Et le Seigneur a fait ce serment. Je ne les laisserai pas voir le pays que j'ai juré de donner à leurs ancêtres, ce pays débordant de lait et de miel. À leur place, le Seigneur a fait entrer leurs fils. Et ce sont eux que Josué circoncit, parce qu'ils ne le sont pas encore. Quand ils sont tous circoncis, ils restent au camp jusqu'à leur guérison. Puis le Seigneur dit à Josué, « Aujourd'hui, j'ai enlevé de vous la honte que vous avez à rapporter d'Égypte. » C'est pourquoi on a appelé cet endroit le Gilgal. Le Gilgal en hébreu, ce nom est formé donc par le verbe traduit dans ce verset par « j'ai enlevé ». C'est le lieu où la honte avait été enlevée. Les Israélites campent en Gilgal et ils fêtent la Pâque le 14e jour du mois, le soir dans la plaine qui est près de Jéricho. Donc Jéricho est juste après le passage du Jourdain. Pour ceux qui avaient déjà été en Israël, c'est juste avant de rentrer dans la vallée qui monte vers Jérusalem. Donc sur le côté est. Le jour suivant, ils mangent des produits du pays, des pains sans levain et des épis qu'ils grillaient. À partir de ce moment-là, il n'y a plus de manne pour les Israélites. Cette année-là, ils mangent ce qui pousse dans le pays de Canaan. Donc il faut voir une chose très importante qu'on avait déjà abordée il y a 2-3 ans, quand on disait « nous étions à l'époque en train de traverser le Jourdain, une partie de l'église était déjà de l'autre côté, on va dire, pour donner une image. La différence entre les deux côtés, quelle est la différence entre les deux côtés? C'est que d'un côté, vous êtes carrément, c'est Dieu qui pourvoit tout. De l'autre côté, on est obligé de semer. Dieu aussi pourvoit tout. Mais il pourvoit pour la culture, pour ce qui pousse. Mais il ne nous apporte pas carrément les choses comme la manne, qui sont des mets qu'on ne pourrait pas trouver dans le désert. De toute façon, il n'y a rien dans le désert. Donc, on est vraiment là à une articulation très particulière. Ils sont au seuil de ce pays. Ils ont commencé déjà à cultiver des choses. Ils peuvent déjà manger les premiers fruits. Mais maintenant, ils doivent prendre possession du pays. Ils ont déjà reçu des instructions, vous vous rappelez. Ils ont eu les instructions pour traverser. Les instructions, évidemment... Et celui qui a pris la succession de Moïse, c'est Josué. D'ailleurs, Josué, ça veut dire Dieu sauve. C'est, en fait, il y a la même structure que Jésus. C'est Dieu sauve. Et dans le passage du jour, voilà quel est ce passage. Donc, Josué, on est dans cette situation-là. Un jour, Josué se trouve... Donc ça, c'est... Josué 5, 13 à 6... 6, 4 ou 5, voilà. Un jour, Josué se trouve près de Jéricho. Tout à coup, il voit un homme debout en face de lui. Celui-ci tient à la main une épée sortie de son étui. Josué s'approche de lui et lui demande « Est-ce que tu es pour nous ou pour nos ennemis ?» L'homme répond « Ni pour les uns, ni pour les autres. Je suis le chef de l'armée du Seigneur et je viens d'arriver. » Alors Josué se met à genoux, le front contre le sol, et il lui dit « Je suis ton serviteur, qu'est-ce que tu veux de moi ?» Le chef de l'armée du Seigneur lui répond « Enlève tes sandales, en effet, tu te trouves dans un endroit saint, et Josué obéit. » À Jéricho, les portes de la ville sont fermées. Donc ça, c'est après cette rencontre. On ne sait pas ce qui s'est dit vraiment à cette rencontre. Donc à Jéricho, les portes de la ville sont fermées avec soin à cause des Israélites. Personne ne peut sortir et personne ne peut entrer. Le Seigneur dit à Josué, « Regarde, je te livre Jéricho avec son roi et ses courageux combattants. Toi et tous tes soldats, vous marcherez autour de la ville. Vous en ferez le tour une fois par jour pendant 6 jours. 7 prêtres marcheront devant le coffre sacré en portant chacun une corne de bélier. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les prêtres souffleront dans leurs cornes. Quand ils feront entendre un son très long avec leurs cornes, le peuple poussera un grand cri de guerre et les murs de la ville tomberont. » Alors peut-être une précision par rapport au passage que j'ai lu sur la rencontre de Josué et du chef de l'armée du Seigneur. Vous avez vu qu'il s'est mis à genoux, donc ce n'était pas un ange. Parce que si ça avait été un ange n'aurait pas laissé faire. Les anges, il est bien indiqué dans la Bible qu'ils ne doivent pas être adorés. Donc c'était en fait, et Josué l'a senti, c'était la présence de Dieu au travers de Jésus. C'était Jésus, une préfiguration de Jésus. Et Josué vient de recevoir les instructions précises du Seigneur sur la façon dont il peut remporter la victoire sur la ville de Jéricho. Avant, il avait déjà reçu un certain nombre de précisions, et il avait même envoyé, rappelez-vous au début de Josué, il avait envoyé des espions. Et ces espions lui avaient dit, voilà, on a rencontré Rahab, elle est prête à nous faire ceci, cela. Donc, toute l'histoire, si vous voulez, de... Et pourtant... Le Seigneur veut quand même donner des instructions et Josué va l'écouter. Mais pour ça, il est obligé de faire 2-3 choses. En particulier, il est obligé d'ôter ses sandales. Josué devait faire confiance au Seigneur parce que c'est lui qui allait faire le travail. Voilà ce que Josué a dans la tête. Josué ne fait pas comme au moment 40 ans avant, quand le Seigneur s'était fâché parce que les espions qui revenaient avaient dit « Ouh là là, c'est terrible dans ce pays ». Et à part 2 personnes, tout le monde avait dit « On ne peut pas y aller, il y a des géants, enfin, vous vous rappelez de cette histoire ». Et à ce moment-là, il dit « Bon, ben très bien, je ne vous permettrai pas d'y rentrer à cette génération-là ». Et qu'est-ce qu'ils font? Quelle est leur réponse? Ah ben, on va monter quand même sur cette montagne et on va quand même y aller. Ce que voulait faire le Seigneur, qu'on fasse, on va le faire. Mais c'était après que le Seigneur ait constaté leur manque de foi. Et le fait qu'ils ne veuillent pas accepter ces instructions. Et qu'est-ce qui leur est arrivé? Ils se sont fait tailler en pièces. Tailler en pièces. Josué n'a pas du tout renouvelé ça. Josué veut suivre les instructions du Seigneur. Et il a eu confiance. À l'époque, les 2 survivants, c'est Caleb et Josué. De cette génération-là, c'est les seuls survivants. Donc tout ce que les Israélites avaient besoin de faire, c'était d'obéir aux instructions. À partir du premier livre de la Bible, et ce jusqu'au dernier livre, nous voyons le Seigneur transmettre des instructions précises et détaillées à son peuple. Par exemple, la description du tabernacle donnée à Moïse, les mesures de l'arche transmises à Noé, et même les instructions précises révélées à Abraham. Nous nous rappelons que Dieu a dit à Abraham, « Va !» Alors vous allez me dire, « Va !» comme instruction, ce n'est pas très précis. Mais quand même, il est allé. Et ce qu'il lui a dit, il lui a dit, « Va jusqu'à là, et après je te donnerai les instructions. » Avez-vous déjà vu quelqu'un feuilleter des instructions et se contenter de lire les grandes lignes? Non. On va en fait chercher des instructions pour avoir vraiment le détail de ce qu'il faut faire. Lorsque Dieu dit à Abraham d'aller, il a dit, voici, je te révèle la première étape. Comment se termine cette première étape? Je te ferai connaître ensuite la deuxième étape. Mes amis, il peut en être de même pour nous aujourd'hui. Nous voulons trop souvent connaître la dernière étape ou ce que Dieu nous réserve à la fin, avant même de commencer. Mais si nous connaissons d'avance la fin, nous risquons de faire ça par nos propres forces. Et je crois que ça nous est arrivé aussi pendant ces années. Notre cheminement, ça a été comme une sorte d'attente d'une terre promise. Évidemment, notre territoire est beaucoup plus petit, hein, mais c'est quand même un territoire. Et dans votre vie aussi, il y a des territoires que le Seigneur veut vous donner. Et si vous piétinez aujourd'hui et vous vous dites « je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas encore ce territoire », c'est peut-être que vous n'avez pas été vraiment lui demander en ôtant vos sandales. Et on va revenir là-dessus, parce qu'évidemment, vous vous dites « il parle de sandales, mais bon sang, c'est pas important ça ». En ôter ses sandales, mais est-ce que c'est ça qui nous donne la clé? Donc, n'avançons pas par nos propres moyens et par nos propres forces pour faire un travail. Bien sûr que vous pouvez mettre en œuvre votre intelligence, votre savoir, mais demandez des instructions à Dieu, parce que des fois, il a des choses beaucoup plus puissantes et surtout beaucoup plus efficaces. Et si vous faites partie de ses enfants, il va se servir de ce que vous faites pour vous instruire. Peut-être que d'autres, qui sont en dehors du peuple de Dieu, heureusement qu'ils ont leur intelligence. Et qu'il y a un certain nombre de réussites. Mais nous, c'est aussi dans notre intérêt d'enfant de Dieu pour aller vers une sanctification, pour une confiance. Parce que l'obéissance est synonyme de confiance. Si vous n'êtes pas dans la confiance, vous ne pourrez pas obéir. Et c'est humain. Alors comment avoir la confiance? Bien sûr, il nous a donné la Bible, sa parole, qui est un manuel d'instruction pour nos vies. Nous avons maintenant besoin de permettre au Saint-Esprit de nous guider à travers la parole de Dieu. Pour nous transmettre ses instructions. Parce que Dieu a aussi des instructions précises qu'il veut donner à chacun d'entre nous. Pas seulement pour l'Église, mais pour chacun d'entre nous. Lorsque nous acceptons Jésus, lorsque nous recevons ce cadeau, Dieu commence à nous dévoiler le plan qu'il a pour notre vie. Je dis bien, il commence à dévoiler. Lorsque nous devenons chrétiens, il a des instructions précises pour notre propre vie, des choses précises qu'il veut que nous fassions. Et si nous n'accomplissons pas ces choses, nous allons alors rater ses bénédictions, c'est tout. Il ne va pas nous maudire. Mais par contre, on n'aura pas les bénédictions. Est-ce que cela signifie que nous ne serons jamais bénis? Non, mais nous passerons à côté de quelque chose que Dieu voulait nous donner à un moment donné et qu'il voulait nous donner à nous. Vous avez tous des trésors en vous, des trésors, des dons. Pour que ces dons s'exercent, Dieu ne vous a pas dit à un moment, je t'ai donné ces dons, puis maintenant tu en fais ce que tu veux, on se reverra dans 80 ans. Mais encore là, je suis optimiste. Hein. Peut-être c'est dans 90. Et je connais des personnes qui aujourd'hui ne sont pas au Seigneur et qui sont à plus de 90 ans, parce que au travers de ce que je fais, j'en rencontre. Vous en rencontrez peut-être pas souvent, vous, mais moi je rencontre des gens qui ont entre 90 et 105. Donc, vous savez, quand vous voyez des gens qui sont au bout de leur vie, hein, et qui ne sont pas au Seigneur, et qu'ils ont un avocat pour venir discuter avec vous, vous savez, ça fait bizarre. Hein. Ça fait bizarre. Alors que devons-nous faire maintenant pour connaître sa direction? Que devons-nous faire pour recevoir ces instructions dont nous avons tant besoin? Si nous voulons goûter à la vie victorieuse que Dieu a en réserve pour nous. On l'a dit tout à l'heure, il y a eu le passage du psaume là sur la vie victorieuse. Dieu veut que nous l'ayons, cette vie. Il n'est pas dit vous aurez une vie abondante un jour. Non. Ça peut être une vie abondante. Maintenant. Donc examinons ce que Josué a fait pour recevoir ses instructions et remporter la victoire sur Jéricho. La victoire sur Jéricho, elle se fait là et pas au moment où ils font le tour. C'est là qu'elle se fait, parce que si elle ne s'était pas faite là, au travers de ce dirigeant, je pense qu'il y aurait eu, d'ailleurs il y a eu plus tard, des défaites devant Haï pour une raison de désobéissance. Parce que le cheminement dans Israël, comme notre cheminement, croyez-le, le cheminement que nous avons, nous, dans nos projets, dans notre vie privée, comme dans notre vie d'église, servent pour le Seigneur comme outil, non pas pour nous briser, aussi, peut-être pour nous briser, mais en bien, pour nous briser pour que notre propre volonté, elle abdique devant sa souveraineté, une souveraineté qui veut notre bien, qui veut que nous ayons le mieux. Donc, après avoir reçu le rapport des deux espions qu'il avait envoyé à Jéricho et traversé le Jourdain, Josué a dû non seulement préparer ses troupes, mais il a dû lui-même se préparer. Donc ça, il n'avait pas besoin d'instruction, il se prépare. Vous vous préparez. Il sortit pour jeter un regard sur Jéricho et c'est à ce moment-là qu'il rencontra un homme tenant une épée dans sa main. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici, un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Le verbe « regarder » exprime ici un élément de surprise. Avec sagesse, Josué ne sortira pas son épée pour se battre. Parce que dites-vous bien, alors je ne sais pas si j'avais, peut-être que tu peux mettre la gravure là, qui date du XVIIIe siècle que j'ai trouvée sur Josué à genoux devant, voilà, bon, et c'est vrai qu'on ne la voit pas trop là. Tu peux la mettre un peu plus, qu'on la voit un peu plus haut ? Oui, en plus grand tu peux. En plus grand tu peux, oui. Voilà, merci. Alors on voit les sandales, on voit la lance, l'épée au côté. Alors bien sûr, c'est une gravure qui date de 1700. Donc c'est avec l'imagerie, disons, de l'époque. Mais il faut s'imaginer, au fond, on voit donc les murs de Jéricho, qui ont aussi l'air de ressembler plus à des murs d'une fortification française, mais enfin bon, ça. Et puis, bien sûr, il y a ce prince, ce commandant de l'armée de l'Éternel. Alors lui, il commence par, donc, il a la sagesse de ne pas dégainer. Il avait vu que l'homme qui venait vers lui n'avait pas l'intention de l'attaquer. Il demanda plutôt s'il était de son côté ou du côté de l'ennemi. C'est ce que dit la fin du verset 13. Josué alla vers lui et lui dit « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis ?» J'aimerais que vous ne perdiez pas de vue sa réponse au verset 14. Il répondit « Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel, j'arrive maintenant. » Donc, sa réponse n'était pas celle que Josué attendait. Celle que Josué attendait, c'était certainement de dire « Je suis avec toi. » Mais Dieu vous dira jamais « Je suis avec toi » parce que de toute façon, il est dans la situation. Il ne prend pas parti. Vous comprenez ça ? Sa réponse ne fut pas celle qu'il attendait, quoi. Il n'a rien dit à propos de cette question-là. Lorsque Dieu se présente pour régler un conflit, il ne vient pas pour prendre parti, il vient pour prendre charge de la situation. Nous ne sommes pas là pour demander à Dieu s'il est de notre côté, comme d'ailleurs beaucoup d'États l'ont fait. Beaucoup d'États ont mis... se sont battus dans les siècles précédents pour dire, à un moment donné, Dieu est avec nous. Hein. On a vu ce que ça a donné, hein, dans les croisades, dans d'autres moments. Et il y a même des États qui ont dit, je ne parle pas d'États qui mettent leur foi en Dieu en mettant, par exemple, une devise, qui est, mais ces États qui le font au nom de Dieu. Et en face, ils ont aussi quelqu'un qui le fait au nom de Dieu. Donc, il y a un problème là. La bonne question en fait, nous ne sommes pas là pour demander à Dieu s'il est de notre côté, mais pour vérifier si nous, nous sommes du côté de Dieu. Et ça, c'est autre chose. La bonne question à poser est la suivante. Sommes-nous avec Dieu ou contre lui ? Il est important d'aujourd'hui de s'assurer, alors que nous sommes confrontés à toutes sortes de combats physiques, émotifs ou spirituels, si nous sommes du côté de Dieu dans toutes nos confrontations. Nous avons besoin de nous rappeler que les Israélites ont essayé à une reprise de prendre Canaan par leur propre force. Tout à l'heure, je vous disais que dans le passage de Nombre 14, mais je ne vais pas le relire, ils ont carrément décidé de faire, mais avec retard, et après la décision de Dieu, ce que Moïse leur avait déconseillé de faire. Au verset 14 de notre texte en Josué, il est écrit que lorsque le messager s'identifia, Josué tomba le visage contre terre et l'adora. En d'autres mots, par ce geste, il démontrait qu'il se soumettait entièrement à la volonté du Seigneur. Il croyait que le messager avait un message de Dieu à lui transmettre et il lui demanda de lui révéler. Ce que nous avons ici, c'est ce que nous appelons une théophanie, c'est-à-dire que c'est Christ qui apparaît à un homme 1400 ans avant qu'il naisse à Bethléem. Il est facile de comprendre qu'il s'agit de Jésus ici pour deux raisons. Premièrement, le messager permet à Jésus de l'adorer, alors que les anges ne le permettaient jamais dans la Bible. Deuxièmement, il demande à Jésus d'enlever ses souliers parce que le lieu sur lequel il se tenait était saint, tout comme ce fut le cas pour Moïse lors de l'épisode du buisson ardent. Parce que cette apparition, elle est un peu comme celle qui a eu lieu devant Moïse très longtemps avant. Mais la chose la plus importante à retenir ici, c'est que les Israélites ne seraient pas seuls pour combattre. Nous devons avoir du respect pour le Seigneur, nous devons l'honorer. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas dans l'esprit de notre siècle. On est dans un esprit du siècle qui est irrespectueux par nature. Regardez, quand vous écoutez les médias, quand vous regardez ou écoutez les médias, et même il y a un irrespect continuel pour, je dirais, pour tout ce qui est sacré, pour tout ce qui est... Même pour les valeurs, on se moque de tout. On est dans un esprit de dérision générale en ce moment. Donc c'est un peu plus difficile, c'est là que je voulais en venir, pour nous, d'être dans une attitude de respect total et d'honorer. Il y a quelque temps, je lisais cette histoire, c'était il y a plusieurs années, un homme de Dieu appelé Thomas fut appelé à remplacer son frère, qui était un pasteur célèbre, qui s'appelait Henri, pour prêcher dans une église située dans une très grande ville. De nombreux curieux s'étaient déplacés pour venir entendre prêcher le célèbre Henri. Lorsque Thomas apparut derrière la chaire, plutôt que son frère Henri, certaines personnes se levèrent et se dirigèrent vers la porte de sortie. J'ai vu ça, moi, à Mulhouse. J'ai vu ça à Mulhouse. Des gens qui s'attendaient à ce que ça soit tel pasteur célèbre qui parle. Et finalement, ce n'était pas lui, c'était un autre. Et ils sont repartis. Réalisant qu'ils étaient déçus parce qu'il remplaçait son frère, Thomas leva la main pour demander le silence et dit que tous ceux qui sont venus ce matin pour adorer Henri s'en aillent. Ben oui, ils n'étaient pas venus pour adorer le Seigneur, ils étaient venus pour adorer l'orateur. Autre piège, c'est-à-dire qu'on ne cherche pas ce qu'on doit recevoir, c'est de Dieu qu'on doit recevoir les instructions. Au travers de ses serviteurs, c'est clair. Mais on peut recevoir des instructions au travers d'un enfant. Si le Saint-Esprit utilise un enfant. Donc il leur demande de quitter l'église et que tous ceux qui sont venus pour adorer Dieu demeurent dans cette salle. Et si nous sommes ici ce matin pour une autre raison que celle de vouloir adorer Dieu, alors nous ne sommes pas ici pour la bonne raison. Et c'est quelque chose que je me pose fréquemment en me disant, pourquoi est-ce que tu te rends dans une réunion? Pourquoi tu te rends au culte? Est-ce que j'ai la bonne raison? La bonne raison, c'est celle d'adorer ensemble, d'avoir une louange ensemble, de recevoir des instructions de Dieu. Mais si c'est juste pour dire j'y vais parce que il faut que j'y sois, quelque part il y a des motifs, des fois ils sont un peu bizarres, c'est pas le bon motif. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas à ce moment-là se reposer la bonne question et dire oui. Mais sachez que ce qui est important, c'est que vous y allez pour les bonnes raisons. Lisons maintenant le verset 15. « Ôte tes souliers de tes pieds. » C'est le même commandement que Dieu donna à Moïse sur la montagne du Sinaï. « Ôte tes sandales, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. » Exode 3.5. Que veulent dire ces paroles? Eh bien, c'était la coutume à cette époque, tout comme c'est toujours la coutume aujourd'hui dans les sociétés orientales et indiennes, d'enlever ses souliers lorsque les gens se rendent dans un endroit pour adorer leur Dieu, ou lorsque vous entrez dans la maison de quelqu'un qui vous a invité. À une certaine époque en Occident, les gens enlevaient leur chapeau lorsqu'ils croisaient quelqu'un. Ils faisaient ce geste pour montrer qu'ils respectaient, qu'ils vénéraient et honoraient la personne qu'ils rencontraient en soulevant leur chapeau. Mes amis, lorsque vous finissez de travailler dans le jardin et que vous rentrez dans la maison, et que votre femme vient juste de terminer de passer l'aspirateur et de laver les planchers, qu'est-ce qu'elle vous dit lorsque vous mettez un pied dans la maison? Elle vous dit, N'oublie pas d'enlever tes chaussures. Et ça m'est arrivé combien de fois où je ne faisais pas attention et j'étais obligé de repasser l'aspirateur dans l'entrée. Hein. Lorsque vos enfants entrent dans la maison après avoir été joués à l'extérieur, qu'est-ce que maman leur dit ? Les enfants, enlevez vos chaussures. Ainsi, lorsque nous venons de l'extérieur et que nous sommes sales, nous enlevons nos souliers. Pourquoi ? Par respect. Oui, mais le respect de quoi ? Par mesure de prévention, parce que nous ne voulons pas transporter notre saleté dans un endroit qui est propre. Quand l'ange dit à Josué d'enlever ses souliers parce que le lieu sur lequel il se trouvait était un lieu saint, et lorsque Dieu dit à Moïse d'enlever ses sandales parce que le lieu sur lequel il se trouvait était un lieu saint, Dieu était en train de dire « Je ne veux pas de saleté ». C'est quand même bizarre que ce texte mette aussi l'accent là-dessus, c'est-à-dire que sur le fait qu'il ne faut pas venir avec des saletés aux pieds. Si vous voulez recevoir mes instructions, si vous voulez que je vous donne une direction dans votre vie, alors quand vous vous présentez devant moi, vous avez besoin de laisser tout ce qui est sale dans votre vie derrière vous. Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez très bien dire, et vous savez, ça peut être aussi dans l'esprit du siècle, mais je ne suis pas en sandales. Je suis en brodequin ou je ne sais pas, je suis en chaussures fermées. Donc ça ne s'applique pas. Ce n'est pas des sandales, vous voyez. Bon, on n'en est pas là, hein. On a bien compris qu'on devait enlever ce qui pouvait être sale. Mais là, vous avez besoin de vous présenter devant moi avec un cœur pur. C'est ça que Dieu veut dire. Et là, vous allez voir, on va tout de suite achoper sur quelque chose. Mais avant, je rappelle ce que disait le psalmiste. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Psaume 66, verset 18. Vous pouvez dire, je pensais que la seule façon de se débarrasser de mes péchés, c'était de les apporter au Seigneur. Et vous êtes en train de me dire que nous ne pouvons pas venir au Seigneur si on a péché. Oui, on pourrait avoir cette... De façon, on va dire, premier degré, on pourrait dire, oui, c'est ça. Il est vrai que Josué et Moïse se sont présentés tous les deux devant le Seigneur dans un lieu saint, avec leurs sandales et toujours avec leurs impuretés. Mais ils désiraient se débarrasser de cette impureté, une fois qu'ils se sont retrouvés dans la présence de Dieu. Cependant, il devait d'abord être pur avant de recevoir les instructions de Dieu. Chers frères et sœurs, lorsque nous côtoyons le monde et que nous marchons dans le monde toute la journée et que nous salissons nos pieds et nos pensées, lorsque nous péchons encore et encore, mais que nous voulons toujours nous présenter devant le Seigneur pour recevoir ses instructions, nous avons besoin d'être prêts à laisser, je dis bien prêts à laisser toute impureté derrière nous. En d'autres mots, si nous avons un péché dans nos vies dont nous ne voulons pas renoncer, si nous avons un péché dans nos vies dont nous prenons tellement plaisir, auquel nous prenons tellement plaisir que nous voulons continuer dans ce péché et que nous voulons recevoir les instructions du Seigneur, nous ne recevrons aucune réponse. Nous ne sommes pas maudits pour autant. Pourquoi ? Rappelez-vous, quand vous avez accepté Jésus, il s'est mis devant et le Père vous voit au travers de lui. Vous êtes juste. Alors je ne comprends pas. Ça ne va pas jusqu'aux sandales ? Ça s'arrête là à un moment donné ? Non. C'est pas ça que ça veut dire. Si on lit l'ensemble du chapitre 13 de l'évangile de Jean, on voit les versets suivants. Alors, oui, tu veux peut-être l'afficher, Jean 13, versets 1 à 10. Donc Jésus, ce passage dit que Jésus, le sauveur du monde, va laver les pieds de ses disciples. Vous vous rappelez de ce passage ? Il prend la position du serviteur, la position la moins élevée de toutes, et il va enlever la saleté des pieds de ses disciples. Alors c'est Pierre qui dit « Non, jamais tu ne me laveras les pieds ». Et Christ lui répondit « Si je ne te les lave pas, tu n'auras point de part avec moi ». Mes amis, de qui pouvons-nous recevoir le pardon de nos péchés ? De Jésus. Et c'est Pierre qui répliquera, Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. Parce que, vous savez, Pierre était quelqu'un d'assez impulsif et qui passait d'un extrême à l'autre. Donc là, il ne voulait pas que Jésus fasse quelque chose que Pierre considérait comme dégradant. Et puis finalement, après, quand Jésus lui dit, tu n'auras pas de part si je ne te lave pas les pieds, il dit, mais alors tu me laves en entier. Et que va répondre Jésus? Regardez voir au verset 10, il lui dit carrément que ceux qui sont déjà passés par le bain, qui ont déjà été nettoyés, on n'a plus besoin que de leur nettoyer les pieds. Vous voyez la différence? Si vous êtes chrétien, alors vous avez été lavé par le sang de Jésus versé sur la croix à Golgotha et vous êtes purifié de vos péchés. Mais vous voyagez dans ce monde, vous marchez dans la saleté du monde et vous devez venir à Jésus. Vous devez venir à Jésus et ensuite lui laisser laver vos pieds. Il s'appelle comment le passage pour laver ses pieds? C'est 1 Jean 1,9. Chaque fois que vous avez la moindre chose qui ne va pas, vous allez à Jésus et vous lui dites « Seigneur Jésus, je te confesse que j'ai fait ceci, que j'ai fait cela. » D'accord? Et Jésus, dans le passage de 1 Jean 1,9, il est bien dit, et il nous lave de tout péché. Mais ça, il faut le faire. Alors, vous voyez comme ça peut paraître bizarre, mais pour recevoir les instructions de Dieu, on est obligé de recourir à un texte. Il y a d'autres passages qui évoquent ce genre de choses, mais le texte le plus clair, c'est celui de Josué. On ne peut pas parler à Dieu et dire « Seigneur, écoute, je veux continuer à... J'aime bien ces petites saletés et finalement, tu peux me donner tes instructions. » Ben non. Non, il faut que d'abord on ôte ses sandales, qu'on vienne enlever toutes ces impuretés. Alors ces impuretés, ne croyez pas que c'est que des péchés laids et grossiers. Ça peut être tout simplement le plan que nous avons pour faire ce que nous sommes venus demander. Si vous venez au Seigneur et que vous n'êtes pas prêt à mettre tous vos plans, tous vos projets à terre, n'allez pas demander. C'est un peu comme si vous n'enleviez pas vos sandales. Hein. Et ça, je n'avais pas compris moi aussi. J'avais mis du temps avant de comprendre ça. C'est énorme, j'ai des bonnes idées. Écoute, tu viens m'approuver là pour l'idée que j'ai? Non, c'est pas ça. Il sait déjà ce qui est le mieux. Donc dans Jean 13, 10, Jésus dit, une personne qui a pris un bain a seulement besoin de laver ses pieds. C'était clair. Donc vous devez être prêt à laisser toutes les saletés de ce monde, les idées, les concepts, derrière vous. Et croyez-moi, il y en a en ce moment qui nous titillent. Des choses où on a des concepts du monde et où on ne sait même pas qu'on les a. Donc le travail d'enlever ses sandales, c'est pas juste de dire, bon, je fais un petit check-up, paf, je regarde tout ce qui ne va pas, bon, très bien. Non, on peut même demander, Seigneur, finalement, qu'est-ce que j'apporte là encore? Qu'est-ce que je n'ai pas encore ôté de mes pieds? Lave-moi toi les pieds. Et va aussi vous laver pour des choses... qui paraissent. Et c'est pas. Il va vous le dire peut-être au travers d'un frère ou d'une sœur, hein. Il va vous le dire au travers de votre épouse, de votre époux. Tous les moyens pour le Saint-Esprit sont bons pour nous toucher, pour nous dire. Mais si on a effectivement cette volonté d'aller devant lui pour lui demander des instructions, il va faire ce qu'il a envie. Il vous aime, et s'il vous aime, il va vous dire ce que vous devez faire. Par contre, si vous êtes ici aujourd'hui et que vous n'avez jamais accepté Jésus-Christ dans votre cœur, c'est comme si vous n'étiez pas passé par le bain. Vous êtes d'accord? Alors là, si vous n'avez jamais été lavé, il n'y a pas que les sandales qu'il faut ôter. Hein. Alors qu'est-ce qu'il reste à faire? Vous ne pouvez pas vous laver vous-même pour entrer dans la présence du Seigneur. Vous ne pouvez pas essayer de cesser de pécher et espérer revenir suffisamment bon pour venir au Seigneur. Non. Ça... Tous ceux qui sont passés par la conversion ou par l'abandon à Jésus savent que c'est un combat perdu d'avance. Vous ne pouvez pas faire ces choses par vos propres forces. Vous devez vous tourner vers lui. Vous devez le laisser entrer dans votre vie. Vous devez lui permettre de vous laver. Et ensuite, Jésus lavera lui-même vos pieds tous les jours. Voilà le rôle de 1 Jean 1,9. D'accord ? Si vous ne passez pas souvent... Moi, c'est un des versets que... Bon, il n'est pas long, hein, donc on peut le retenir par cœur, auquel je fais appel très souvent. Peut-être pas vous, moi je suis imparfait. Hein. Et surtout, comme disait Paul, ma vieille nature, elle s'accroche. Hein. Elle s'accroche. Donc, tout à l'heure, je ferai un appel pour dire tous ceux qui ne sont pas passés par le grand bain, il faut d'abord qu'ils passent par le grand bain. Laver les pieds, c'est beaucoup plus rapide. Et comme a dit Jésus, ceux qui sont déjà passés par le bain, on leur lave juste les pieds. Parce que Jésus va le faire, il lavera lui-même vos pieds tous les jours. Il commencera d'abord par enlever la saleté en vous, dont vous voulez tellement vous débarrasser. Il vous aime et il veut faire cela pour vous. Dieu veut vous donner une nouvelle vie. Il veut faire de vous une nouvelle créature, mais vous devez lui donner votre vie. Êtes-vous prêt ? Êtes-vous prêt ? Si vous ne l'avez pas vraiment fait un jour dans votre vie, c'est le moment. On n'est pas nombreux aujourd'hui. D'habitude, on est 3 fois plus. Non, peut-être pas. Hein. 2 fois plus. Et si vous êtes prêt à le faire maintenant, c'est le moment. S'il parle à votre cœur, c'est le moment. N'attendez pas, ne quittez pas ce lieu sans l'avoir accepté lui. C'est la première chose. Vous pouvez vous laver les pieds, mais si tout le reste pue, on ne saura pas si c'est les pieds qui puent ou si c'est vous. Mais c'est exactement ça. Nous, on peut dire qu'il n'y a que nos pieds qui peuvent éventuellement puer. Pourquoi ? Parce que nous sommes dans le monde et qu'il y a des choses qui s'accrochent à nous. Et ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est que quand vous voulez avoir des instructions, que Dieu conduise votre vie en détail, enfin en détail, il ne va pas vous dire s'il faut mettre la chaussette à droite ou à gauche, mais pour dire, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire demain ? Quel est le prochain pas ? Il va vous donner ses instructions, parce qu'il vous aime. Et qu'aujourd'hui, on a une chose très différente par rapport à l'époque de Josué. À l'époque de Josué, il n'y avait que certaines personnes qui avaient reçu le Saint-Esprit. Aujourd'hui, c'est tout le monde qui l'a reçu. Tous ceux qui s'approchent de Jésus et qui disent oui à Jésus reçoivent le Saint-Esprit. Vous qui êtes chrétien, qui avez accepté Jésus, si vous ne délaissez pas votre péché, celui qui s'est accroché à vos basques, si vous n'enlevez pas votre saleté, si vous n'enlevez pas vos chaussures dans la présence du Seigneur, alors vous serez incapable de progresser dans votre foi. Ça, c'est pour ceux qui ont accepté Jésus. Que ça soit il y a 30 ans, il y a 40 ans ou il y a 8 jours. Et ce combat-là, c'est jusqu'à la fin de nos jours qu'on l'aura. Mais c'est un combat, si on a pris l'habitude, qui est très simple. Parce que se laver les pieds, franchement, il n'y a pas besoin d'une piscine. Hein. Et vous ne goûterez pas à la vie que Dieu en réserve pour vous, et encore moins ses bénédictions. C'est dur. Mais je crois que ceux qui ont de l'expérience dans la foi, ils savent que c'est quelque chose qui est un combat. C'est de renoncer à un certain nombre de choses. Quand je dis renoncer, c'est là où le Saint-Esprit vous donne la conviction qu'il faut y renoncer. En tant qu'Église, si nous n'abandonnons, alors là, en tant qu'Église, si nous n'abandonnons pas tout péché, si nous n'enlevons pas toute forme de saleté, alors nous ne verrons pas cette Église aller de l'avant et progresser. C'est pareil. Le corps de Christ, c'est exactement pareil. C'est Dieu qui fait le travail, il peut et il utilisera cette église pour changer le monde si nous venons à lui purifier aujourd'hui. Enlevons la saleté et laissons-le œuvrer à travers nous. Si vous êtes prêt à vous purifier aujourd'hui, donnez-lui votre vie et votre saleté. Voulez-vous le faire ? Si vous faites partie de ceux qui n'ont jamais accepté, alors je dis, venez. Tout à l'heure, on prendra un moment pour ceux qui veulent le faire. Faites confiance à Dieu, il peut faire cette œuvre en vous et il le fera. Et je terminerai en disant, si on priait, prions. Seigneur, je veux te remercier. Merci pour ta parole qui ne revient pas à toi sans avoir produit d'effet, sans avoir réalisé ce que tu voulais, sans avoir atteint le but que tu lui avais fixé. Nous croyons en tes promesses. Nous croyons en ta fidélité. Tu vas réaliser tout ce que tu as dit dans la vie de chacun de mes frères et sœurs, mais aussi dans la vie de ceux qui se sont approchés aujourd'hui de toi. Et que ceux qui ne sont pas encore passés dans le grand bain, même s'ils ne sont pas prêts, s'ils ont l'impression qu'il faut des connaissances, qu'ils fassent confiance à Dieu et qu'ils disent « Oui, nous voulons passer aussi dans ce grand bain et donner notre vie à Jésus. » Amen. Voilà, alors je voulais vous laisser encore un passage, c'est celui de, pour que certains comprennent aussi le pourquoi certaines paroles tout à coup deviennent puissantes. Dans Luc 1, 37, il est dit, c'est l'ange Gabriel qui dit à Marie, rien n'est impossible à Dieu. Et la traduction, elle n'est pas bonne là en français, la vraie traduction c'est aucune parole de la part de Dieu, c'est-à-dire aucune parole réma, ne sera impuissante. Ça, c'est la traduction de ce passage de Luc 1, 37. Ce qui veut dire que si Dieu vous donne une parole, si Dieu vous parle, rien n'empêchera la puissance de cette parole dans votre vie. Et laissez-nous aussi parler dans vos vies, ceux qui reçoivent des paroles, peuvent les donner à ce moment-là sur vos vies. Et c'est aussi quelque chose qui, si ça rencontre votre conviction, se réalise. Merci. Et donc j'invite tous ceux qui ont envie de donner leur vie à Jésus, de venir ici, et l'un ou l'autre, on priera pour eux. Et pour ceux qui voudraient juste se laver les pieds, n'hésitez pas, faites-le tous les jours. Ne vous couchez pas avec les pieds sales, franchement. C'est pas propre, hein. Et que le Seigneur vous emmène dans la joie aujourd'hui. Amen. Amen.